Évidemment, cette crise pose, mais pose vraiment une question. Où ira l'économie? Tout le monde tente non seulement de prévoir comment le coronavirus va évoluer, notamment dans sa dangerosité, sa propagation, sa transmission, mais de quoi sera fait l'univers économique hier? Le président américain a dit qu'il s'était entendu. Le Sénat américain s'est entendu, le Congrès américain, pardon, s'est entendu pour voter, débloquer des budgets à hauteur de 2 000 milliards de dollars. Luc Godbout est titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Luc Godbout, bonjour.
Bonjour, M. Wood.
Incroyable. Les préoccupations ne sont pas seulement médicales. Non seulement il y a des gens, évidemment, qui ne veulent pas attraper le coronavirus pour eux, leur famille, leurs proches, mais c'est incroyable la préoccupation des gens pour ce qui va se passer. Dans le secteur de l'emploi, bien entendu, et c'est compréhensible, il y a des gens qui ont perdu du jour au lendemain des revenus essentiels et des échéances arrivaient. Nous sommes submergés de questions. Dans son aspect global, Luc Godbout, est-ce que c'est peut-être la plus grande crise, le plus grand défi que le monde économique aura ou aura eu à affronter?
De toute évidence, je crois qu'on rentre dans la section oui. Ça n'a d'aucune commune mesure avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. Je pense que pour les gens le réalisent bien aussi, là. À part ceux qui ont peut-être connu la Deuxième Guerre mondiale, la crise du SRAS, ça n'a pas de commune mesure avec ce qu'on vit présentement, là. Donc, vraiment, c'est unique. Et c'est pour ça que les gouvernements arrivent avec des réponses qui sont différentes par rapport aux situations passées.
Luc Godbout, il y a des gens qui pensent que la bourse n'est réservée qu'aux riches. Mais il faut faire attention parce que la bourse, hein, c'est aussi une partie de nos investissements, chacun, même nos petits investissements, notamment au niveau des régimes enregistrés d'épargne retraite. Il y a des actions boursières. Est-ce qu'il ne serait pas temps de fermer la bourse de New York ou celle de Toronto, ne serait-ce que pour 48 heures? Parce que tout le monde craint demain que la reprise va montrer encore cette tendance à la baisse accélérée.
Je n'ai pas de réponse pour vous, mais une chose est certaine à cet égard-là, si jamais les gouvernements décident de fermer les bourses, ils ne le diront pas à l'avance, là. On va l'apprendre et ça va être fait pour une durée indéterminée. Mais je n'ai pas de réponse pour vous dans ce contexte-là.
Il y a un mécanisme déjà qui ferme les bourses, ne serait-ce que pour 15 minutes, pour calmer les marchés. Et ça, on a mis ça en place depuis le crack boursier de 1987, où 22% avait été la chute du Dow Jones. Donc, on le fait déjà sur une base quotidienne pendant 15 minutes pour calmer un peu l'agitation qui règne.
En effet, c'est déjà prévu.
Alors, Luc Godbout, on va se tourner maintenant vers d'autres préoccupations, notamment les annonces qui sont faites par les gouvernements. Il y a des gens qui disent il va falloir être patient pour recevoir les chèques, mais en même temps aussi, est-ce que le gouvernement est vraiment rassurant quand il dit que nous sommes bien placés au Québec en ce moment pour faire face à la demande qui ne fera autrement que de croître?
Le gouvernement du Québec est bien placé pour faire face à la crise. Heureusement, on peut remercier, dans le fond, les premiers ministres et les ministres des Finances des 25 dernières années qui ont assaini les finances publiques du Québec et qui ont mis en place le Fonds des générations, par exemple, qui a fait en sorte que le poids relatif de la dette du Québec est en diminution. La note de crédit du Québec auprès des agences de notation comme Moody's est en amélioration actuellement. Québec est mieux, la dette du Québec est mieux notée que l'Ontario. Il y a seulement 3 provinces canadiennes qui ont une meilleure note que le Québec. Ce qui fait qu'on peut emprunter, facilement et à des bons taux. Et c'est ce qui va permettre, dans le fond, de passer à travers la crise.
Est-ce que ce sont des mesures qui seront progressives? Ce que je veux dire, là, c'est comme une première phase de mesures. Est-ce que vous croyez que le gouvernement, quand même, dispose d'une certaine liberté pour ajouter une couche? Mais en attendant, est-ce que ces mesures seront suffisantes?
Bien, dans un premier temps, le gouvernement y va effectivement par étapes. Il a déjà annoncé cette semaine, le gouvernement fédéral, seulement 82 milliards d'aides indirectes, directes ou indirectes, en soutien financier. s'il y a besoin, se fait sentir, il va en rajouter, là, effectivement. Mais pour le moment, c'est quand même pour rassurer les gens, là, c'est de l'aide qui ratisse quand même assez large. Lorsqu'on parle du soutien financier, on couvre pas mal les cas de figure, là. Si vous perdez votre emploi, si vous êtes en quarantaine, si votre employeur réduit votre temps de travail, vous êtes couvert par des programmes. Et si vous êtes à faible revenu, il y a des mesures de soutien de revenus qui ont été mises en place, la bonification du crédit TPS. Si vous avez des enfants, la bonification de l'allocation canadienne pour enfants. Donc, c'est des premiers gestes qui ont été faits, qui vont apporter quand même beaucoup d'argent. Je comprends qu'il y a quand même un délai avant que les sommes rentrent. Mais dans les prochaines semaines, les gens vont quand même voir des montants arriver. Donc, c'est ça qui est d'un côté rassurant. Et de l'autre, on enlève le stress pour les gens de devoir verser leurs impôts. Et donc, on repousse le moment où les impôts qui auraient été payables d'ici le 30 avril, on les repousse dans le fond maintenant jusqu'au 1er septembre. C'est le cas pour les travailleurs, mais c'est le cas aussi pour les travailleurs autonomes et donc et même pour les sociétés. Donc là-dessus, ça enlève un stress financier énorme. Juste cet élément-là, pour le gouvernement fédéral, on parle de 55 milliards de liquidités aux entreprises et aux particuliers en reportant le paiement de leur impôt à plus tard.
Mais en même temps, est-ce que ça ne va pas exercer une pression importante sur nos finances publiques? C'est-à-dire, en reportant nos déclarations de revenus, donc le paiement, par exemple, dans certains cas, ceux qui ont eu un avis de cotisation, si on repousse de quelques mois, le gouvernement va se priver également de revenus fiscaux importants pour mettre en place peut-être d'autres mesures.
C'est pour ça que le gouvernement, en faisant cette annonce-là, ça équivaut à dire « je vais devoir emprunter le temps que vous ne me payerez pas les impôts ». Mais la bonne nouvelle, ce n'est qu'un report. Pour les finances publiques du gouvernemental, ce n'est qu'un report. Donc, sur une base annuelle, avant le mois d'avril 2021, là, les impôts auront été payés. Et donc, ça n'affectera pas la dette à long terme du gouvernement, mais ça va affecter le déficit à court terme.
Mais on parle souvent du gouvernement fédéral qui a accumulé les déficits depuis 2015. Les budgets ne sont pas équilibrés, si on veut. Là, si on traverse une crise avec des mesures aussi importantes, non seulement les déficits vont s'accumuler, très certainement, mais la dette également va gonfler de façon spectaculaire, non?
Bien, vous avez raison de le dire. Le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral étaient dans des situations complètement opposées. Le gouvernement fédéral était à l'aise de prévoir un déficit de 25 milliards lorsque ça allait bien. Donc, imaginez, au lieu de partir de zéro, on part de déjà moins 25 milliards. Et donc, c'est clair que toutes les annonces qui ont été faites cette semaine vont alourdir ce déficit-là. Je n'ose pas avancer de chiffres parce que le déficit risque de semaine en semaine d'être plus grand, mais plusieurs avoisinent déjà une centaine de milliards de dollars de déficit fédéral pour le prochain exercice-là.
En terminant, Luc Godbout, est-ce que vous partagez cette pensée du président américain Donald Trump qui a dit « Quand on aura placé cette crise derrière nous, il va y avoir une reprise spectaculaire comme on ne l'a jamais vue dans l'histoire de l'économie mondiale et avec une vitesse foudroyante. »
C'est un scénario possible. Il faut bien comprendre, la crise actuelle ne se compare pas du tout à la crise financière de 2008 où là, tout le système est en train de dérailler et il fallait le stimuler pour qu'il reparte. Aller jusqu'à il y a deux semaines, l'économie canadienne, l'économie québécoise allait très bien. C'est les gouvernements qui ont volontairement arrêté l'économie d'aller en disant « restez chez vous ». Donc, on ne sait pas pour le moment, là, lorsque l'activité économique va reprendre. Peut-être que ça va reprendre facilement et peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'un énorme plan de relance. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un plan de transition pour arriver à traverser la crise sanitaire.
Espérons-le. Espérons que ce sera le scénario. Je ne me fais pas d'illusions, peut-être que ce sera plus long que prévu, mais il y aura bel et bien un après. Partagez-vous cet optimisme, Luc Godbout?
Oui, après la pluie, il y aura le beau temps, c'est certain. Donc, à terme, l'activité économique va reprendre et la question, c'est de savoir c'est quand que tout ça va partir.
Si on avait la question, on serait milliardaires tous les deux. Merci. Pas la question, la réponse. Merci beaucoup, Luc Godbout.
Il n'y a pas de quoi, au revoir.
Luc Godbout est titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke.